Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci de choisir Radio Okapi. Ces numéros du magazine Identité culturelle analysent la production artistique de la RDC 61 ans après l'indépendance du pays. La culture qui a joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance de la RDC. Pour faire cette analyse, nous recevons deux invités, les professeurs André Yokalier de l'Institut National des Arts, INA, et les chefs des travaux Dieudonné Nkisi Kazadi de l'Université de Kinshasa. Pour eux, la production artistique de la RDC est abondante, mais sa qualité doit être améliorée. Cela passe par la mise en œuvre du document de la politique culturelle déjà élaboré. Je suis Rosalie Zawadi, chers auditeurs, bienvenue. C'est notre culture qui fait notre identité, dit le professeur André Yokalier. Reçu par Jean-Marc Matouaki, il salue le travail des artistes dans les différents secteurs, souvent avec leurs moyens propres. Il commence par faire sa lecture de la production artistique actuelle en RDC.
Je prends le domaine du livre. Savez-vous que nous sommes les plus grands producteurs d'œuvres littéraires? Le problème qu'on a été un problème économique. Comment accompagner cette quantité-là pour qu'elle soit de qualité? La qualité, ça veut dire aussi la diffusion. Dans le domaine des arts plastiques, nous sommes en avance. Les arts populaires, mais c'est le Congo. C'est Chéri Samba. C'est Chéri Chara. Mais aussi, il y a des grands noms. J'ai parlé de Liolo tout à l'heure, je peux parler de Bamba. Je parlais
de Freddy Timba.
De Freddy Timba, aujourd'hui, qui fait l'honneur du pays.
Mais Eddie Kisongel.
Eddie Kisongel. C'est pas l'État, ça. C'est par eux-mêmes. J'ai suivi ça puisque j'ai écrit beaucoup sur les deux. J'ai fait beaucoup d'albums avec eux où j'ai fait leur promotion. Ce qui nous rassure, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses ces derniers temps. Par exemple, le document dont vous parlez, la politique culturelle, a été déposé au Parlement. C'est depuis 2 ans qu'on attend qu'il soit examiné, qu'il soit acté. Mais un document ne suffit pas pour faire la politique culturelle. Il faut plus que cela. Il faut que ce soit une volonté, une vision qui dépasse les gouvernements, qui dépasse les remaniements, qui dépasse les régimes. C'est pourquoi il faut que ce soit une ordonnance, pour que ça donne du poids à l'affaire. Mais il faut que ce soit aussi le résultat d'une consultation la plus élargie possible sur l'état actuel de la culture de notre pays. On en parle beaucoup, mais moi je n'en fais pas une religion, hein. De la politique, parce que je sais que les artistes travaillent par eux-mêmes.
Mais il y a la rumba aussi.
J'allais en parler. La rumba est partie des experts. Ils sont nombreux que je devrais citer. Mais sans l'État, l'État nous a rattrapés. Dieu merci. Nous avons eu des ministres qui ont été très attentifs. Nous avons eu un gouvernement qui a été attentif et qui l'est encore aujourd'hui. Et donc, la rumba a pris ses palmes, a repris ses palmes. Grâce à des experts universitaires. D'abord, l'État nous a rattrapés. C'est peut-être le rôle de l'État aussi d'accompagner, de ne pas toujours être à la tête. Mais quelle est la situation de la rumba aujourd'hui? Les experts se sont réunis. Beaucoup de nos partenaires, notamment internationaux, nous ont conseillé d'ouvrir le débat à d'autres pays qui ont été à la genèse de la rumba. Le Congo-Brazza, bientôt l'Angola. Même le Cameroun, même Libreville, quel pays d'Afrique centrale n'a pas été à l'école de la rumba? Pour le moment, c'est le Congo Brazza, le Congo Kinshasa. Nous avons déposé le 26 mars 2020, officiellement, signature des deux ministres, Moyongo du Congo Brazza et Lokonji de Kinshasa. Déposé. Nous avons fait des allers-retours Brazza-Kinshasa pour des colloques de consolidation de la candidature. C'est parti. On nous a répondu au mois d'août pour dire que le dossier au niveau technique était impeccable. Donc nous avons fait les 50% du devoir que nous devions faire. Nous sommes à gué. Maintenant reste l'autre bout de la route, c'est-à-dire la phase diplomatique et la phase politique. Parce que le choix, le jury, c'est à ce niveau-là. Et donc, nous essayons, dans nos limites, de pouvoir sensibiliser.
Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que l'autre bout là soit franchi?
Le lobbying. Le lobbying de nos ambassadeurs à l'UNESCO. Le lobbying sur place de nos amis qui nous soutiennent beaucoup. L'Union africaine, l'Union européenne. Par exemple, dans Rumba Parade, ils sont actifs là-dedans. Surtout le pôle unique de l'Union européenne qui soutient. Mais aussi l'UNESCO qui nous a beaucoup soutenus. Il faut que ces organisations internationales puissent se porter en avant. Puissent nous porter, si on peut dire. Mais il faut que fondamentalement notre gouvernement, notre diplomatie ici sur place, qui rassemblerait tous nos amis sur place, mais notre diplomatie à l'étranger, notamment à l'UNESCO. Il faut que ce soit une diplomatie cheval de Troie pour pouvoir faire le lobbying et pouvoir convaincre. Nous avons reçu ici, il y a quelques mois, Madame André, la directrice générale de l'UNESCO. L'UNESCO et moi, c'est-à-dire l'INA, nous lui avons offert une soirée rumba mémorable. Et donc, en sortant de là, elle a dit que c'était un moment historique qui devrait retenir l'attention des membres du jeu. Elle a été reçue à Brazza aussi. Elle a été reçue par le président Tshisekedi, ici à Kinshasa. Et tout s'est bien passé, d'après ce que nous avons entendu. Donc, au niveau le plus élevé, on parle de plus en plus de la rumba. Quand le président Tshisekedi a inauguré son mandat comme président de l'Union africaine au Palais du Peuple, il a fait un discours fameux. Un des moments rares où il a été applaudi frénétiquement, c'est quand il a parlé du projet de la rumba congolaise. La ministre de la Culture, je l'ai entendu lors de la journée mondiale de la musique, à la fin, il a eu un mot très encourageant sur la promotion de la rumba congolaise au stade où nous sommes. Donc, croisons les doigts jusqu'au mois de novembre-décembre pour voir comment ça va se passer. Mais la vraie question, oui, quand on l'aura eu, qu'est-ce qu'il faut? Quand on aura la candidature, c'est là où vous, la presse, c'est là où les managers, c'est là où le secteur privé et public du show business, c'est là où tout ce monde-là, nous devrons nous rassembler pour que véritablement on puisse donner une impulsion d'autant plus forte qu'elle sera reconnue à travers le monde. Ce sera plus facile que de jouer perso dans un domaine aussi complexe.
Et aujourd'hui, parmi les pionniers de cette rumba, il y a le doyen Bombenga Wewando qui va totaliser 87 ans d'âge le 25 août de cette année.
Oui, l'année passée, nous lui avons offert une soirée, toujours des privés. Notre ami Jean-Pierre Eyalé, avec certains autres, nous nous sommes réunis pour lui rendre hommage dans une des grandes discothèques de la place. Il mérite beaucoup. Non seulement il a résisté du point de vue physique, mais il a résisté du point de vue mental, il a résisté du point de vue artistique. C'est parmi les grands compositeurs de ce pays. Vous ne pouvez pas citer les grands compositeurs de ce pays depuis Calais, en passant par Taboulé, en passant par Lutumba, en passant par Mpompoloaï, en passant par Pongolo, Billy Abel ou Tshalamwana, sans parler de Bombenga, qui est parmi les maîtres. Et jusqu'à présent, il continue à produire et à se défendre. Nous l'avons invité ces dernières années, non seulement à l'INA, où il est venu parler aux étudiants, c'était émouvant. Mais nous l'avons invité aussi dans nos concerts de Rumba Parade, égal à lui-même. Quand nous avons organisé le sommet de la francophonie à Kinshasa, vous savez que l'INA, à travers moi, s'est occupée de la présidence de la commission scientifique et culturelle. Nous avons organisé un méga concert avec Bababa Soudaïro, un méga concert au Stade des Martyrs. Quand le doyen Bombenga est apparu sur scène, quand il a entonné la chanson « Afrika Mokili Mobimba », c'était le délire dans le stade. Le stade était constitué de jeunes, de tout jeunes, puisqu'on arrivait vers minuit, une heure du matin, dont les vieux étaient partis. Mais le stade a explosé. J'ai eu chaud au cœur. Donc, voilà des personnes que nous devons célébrer. Nous ne devons pas les oublier. Nous devons les célébrer comme étant les porte-étendards de la culture de ce pays, de l'imaginaire collectif, et de notre force de frappe à travers le monde.
On clôture avec le chapitre sur l'INA. L'INA, c'est aussi cette institution, on va dire, c'est à la fois un foyer des arts, parce que beaucoup d'artistes qui font parler du Congo aujourd'hui dans les biens et dans les bons sont sortis de l'INA. Il y a Céline Banza et beaucoup d'artistes. Mais quel bilan pour l'INA et par rapport à tous ces parcours?
Nous venions de faire une réforme. Nous sommes internés à Kinshuka pendant 3 jours. Quelques notables de l'INA, accompagnés par l'UNESCO, les experts de l'UNESCO, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union européenne. Nous nous sommes réunis là-bas pour aider le ministère, du ministère de l'enseignement supérieur universitaire et du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques pour réfléchir sur l'avenir de l'INA. La dernière réforme substantielle a eu lieu à la fin des années 70-80 et dont il était temps d'enraciner nos connaissances. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de patrimoine. Je suis même heureux que le nouveau gouvernement ait adopté cette étiquette-là. La revalorisation du patrimoine, aujourd'hui, est devenue un défi majeur. D'ailleurs, la restitution des biens culturels passe par là. Et donc, nous devions, nous, en tant que gestionnaire de la culture, voir comment gérer aujourd'hui, en 2021 et plus tard, gérer le patrimoine dans sa diversité. Le patrimoine culturel immatériel, le patrimoine culturel matériel, le patrimoine architectural, ainsi de suite. Nous en sommes à ça. Parce que c'est par là que l'on juge de la valeur immanente d'un pays et d'une culture. Nous avons fait 3 jours avec des recommandations. En ce moment, nous sommes en train de peaufiner ces recommandations pour faire une demande ouverte auprès du conseil d'administration et du gouvernement. Avec comme objectif la réforme du programme, mais aussi avec comme objectif à moyen terme l'installation du troisième cycle. Il est temps que les instituts d'art qui peinent, malgré eux, ce n'est pas leur faute, à pouvoir préparer la relève dans les termes qu'il faut, n'arrive pas. Donc l'INA peut être le porte-étendard de ce changement-là pour une relève appropriée. Et donc nous sommes en train de préparer la documentation là-dessus. Nous étions prêts il y a quelques années, mais il nous fallait un critère exclusif, c'est d'arriver à avoir 10 professeurs titulaires. À l'époque, il y a 2-3 ans, nous en avions que 6. Maintenant, nous en avons plus de 10. Deuxième défi que nous avons, nous en avons beaucoup parlé dans votre émission, c'est le centre international, régional de la culture et des arts avec un INA nouveau style, un INA new look. Mais ça veut dire que le bâtiment ne suffit pas. Il faut le contenu de ce bâtiment-là. Et la réforme que nous adoptons, que nous engageons là, doit correspondre avec les ambitions de ce centre-là régional et d'un INA régionalisé. Ce serait peut-être trop tôt de le dire, mais nous rêvons d'une université panafricaine des arts qui pourrait être en Afrique centrale le levain qui porte sur la fécondité de l'art et de la culture en Afrique centrale, mais en Afrique tout court.
Professeur Yoka, pour tout contact, pour ceux qui veulent entrer en contact avec vous.
Le contact, c'est le 03x9 422 863.
Voilà. Professeur André Yoka,
et puis,
merci.
Il y a le site de l'INA, www.inakinshasa.net.
On a du mal à dire les choses simples de la vie, des cœurs à corps qui s'attirent jusqu'au chant des corps à vie.
On fait souvent de grands discours là où nos âmes demandent le silence. On s'invente de longs parcours au bout du compte n'ont pas de sens. Oh. Laissez parler nos cœurs comme un écho sur la colline pour oublier nos peurs qui peu à peu nous assassinent. Faut jamais s'arrêter d'y croire, même si on nous bombarde des histoires. Il y a toujours un temps pour tout, l'amour priera sur nos coups.
Après cette chanson de Lokwa Kanza, nous revenons dans ces studios pour poursuivre ces magazines Identité culturelle. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi. Nous analysons aujourd'hui la production artistique congolaise 61 ans après notre indépendance. Nous recevons à présent notre deuxième invité, Dieudonné Nkisi Kazadi, chef des travaux à l'Université de Kinshasa et président du parti politique Congo Positif. Il salue les mandats du président de la République à la présidence de l'Union africaine, un mandat placé sous les signes de la renaissance de la culture. Pour lui, la RDC a un rôle important à jouer dans ces secteurs, mais cela doit passer par une prise de conscience générale pour relever la culture congolaise d'abord et par la suite impacter tous les continents. Il a été joint depuis Kananga par Jean-Marc Matwaki.
Vous avez entendu, je ne sais plus c'est quel président africain qui s'est fâché avec la République démocratique du Congo, qui dit que les malheurs de l'Afrique, c'est le fait que le Congo ne se développe pas. Ça veut dire, il veut dire tous les rôles locomoteurs de la République démocratique du Congo. Si nous sommes la République démocratique du Congo, avec tout le potentiel qui est le nôtre, au centre de l'Afrique, ça veut dire que nous avons un rôle important à jouer, et le fait que nous ne jouons pas ce rôle, le fait que le Congo soit là où il est aujourd'hui, ça veut dire à la traîne des choses, empêche toute l'Afrique de pouvoir décoller. Vous savez, le potentiel que nous avons en termes énergétiques avec Inga, c'est un potentiel pour toute l'Afrique, par exemple. Le potentiel d'eau que nous avons, c'est un potentiel pour l'ensemble de l'Afrique. La forêt, ainsi de suite. Alors, c'est pour dire simplement que nous avons un rôle important à jouer en tant que République démocratique du Congo, pays placé au cœur de l'Afrique. Le sang qui nourrit l'ensemble du corps vient du cœur. Le cœur, c'est le centre de l'homme. Et donc, les Congo qui sont au centre devraient être en mesure d'envoyer le sang dans les autres compartiments du corps africain.
Quel bilan, Dieudonné Nkisi, pouvez-vous faire en rapport avec la moisson artistique des Congolais? En 61 ans d'existence, quel est le rôle que les artistes ont pu jouer? D'abord par rapport à la naissance de cet État et par rapport à son développement.
Bon, sur le plan artistique, il y a eu des grands noms. Il y a des grands noms dans tous les domaines culturels, dans tous les domaines artistiques. Je ne voudrais pas ici citer ces noms-là. Mais au tout début, au début de l'indépendance, vous avez vu des productions qui sont restées légendaires, des productions culturelles, des productions artistiques congolaises qui sont demeurées légendaires. Jusqu'aujourd'hui, il y a des grands hommes qui ont fait la culture congolaise aujourd'hui. Les grands noms, vous les connaissez. Mais après, c'était la dégringolade. Après, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la dégringolade. Et vous voyez aujourd'hui, par exemple dans le domaine de la musique, vous voyez que la plupart de nos musiciens sont tombés dans les insanités, dans des musiques par exemple que vous ne pouvez pas écouter avec des enfants. Et tout le monde a cru que c'était pour vendre. Oh, personne ne peut acheter ça. Ils se plaignent de piratage, mais qu'est-ce qu'ils donnent aux gens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils donnent aux gens? Des responsables ne peuvent pas acheter ce genre de musique ou on ne peut pas suivre des choses avec des enfants par exemple. Et tout le monde a cru que c'est en mettant des insanités qu'on pouvait gagner de l'argent. Non, c'est faux. Faux et archi faux. Nous sommes toujours une société de valeurs. Quand on tombe dans des choses qui ne sont pas valeureuses, bon, vous allez avoir l'impression que les gens vous suivent, mais en réalité, le plus grand nombre ne vous suit pas. Nous sommes tombés très bas. Nous avons abandonné les sites culturels. Aujourd'hui, vous voyez par exemple les musées, il faut que quelqu'un vienne de quelque part, de très loin de l'Afrique même, pour nous construire un musée au Congo. Alors, nos musées sont... J'ai suivi un reportage il n'y a pas très longtemps, le directeur du musée de Kananga, qui dit que sa direction est ambulante. Ça fait 4 fois qu'ils ont déménagé. Et chaque fois qu'ils déménagent, ils perdent des objets de valeur. Voilà. Voilà, c'est l'abandon total. Dans tous les domaines, les musiciens se plaignent du fait qu'ils ne peuvent pas produire leur musique au Congo. Or, aller produire de la musique à l'étranger, c'est amener des capitaux là-bas. C'est amener des capitaux, en même temps, des mêmes capitaux, on en a besoin ici. Et donc, on est tourné totalement vers l'abandon. On a tout abandonné, alors que nous avons tout pour donner à nous-mêmes et à l'ensemble de l'Afrique.
Donc, à vous croire, Dieudonné Nkichi Kazadi, les bilans, 61 ans après, du point de vue culturel, est mi-fig, mi-raisin.
Bon, mi-fig, mi-raisin, c'est vous qui le dites, hein, parce que vous êtes un homme modeste. Moi, je vous dis que le bilan, il est catastrophique. Ce que nous donnons aujourd'hui à regarder notre potentiel, ce n'est pas ce que nous devrions donner. Nous ne devons pas nous voiler la face. Nous sommes aujourd'hui dans les moindres efforts. Nous n'avons pas les bases, nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas de politique culturelle. C'est vrai, c'est écrit, nous avons des très très bonnes politiques culturelles sur papier, mais dans le fait, Jean-Marc, dans le fait, c'est là où se posent des problèmes. Vous avez des très bons textes pour promouvoir la culture congolaise. Nous avons même des institutions, les fonds de promotion culturelle. Donc, tout ça, c'est fait pour promouvoir la culture congolaise, mais dans le fait. Mais vous allez voir en allant dans le fait que c'est la nuit et les jours.
Mais dans ce cas, face à ces diagnostics, est-ce qu'il y a une thérapie que vous pouvez suggérer ou recommander?
Jean-Marc, nous devons nous ressaisir. Comme République démocratique du Congo, nous devons nous ressaisir. Nous sommes aujourd'hui fixés sur des paradigmes qui ne nous ont pas avancés depuis maintenant 61 ans. Nous devons abandonner tous les paradigmes que nous avons mis en place, auxquels nous avons cru, des paradigmes qui n'ont rien donné. Et le premier paradigme, c'est de croire que nous sommes grands alors que nous sommes petits. Comprenons que dans la petitesse, nous pouvons devenir grands. Aujourd'hui, nous sommes petits. Nous avons un grand potentiel. Mais nous, comme peuple congolais, en tout cas, nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, ça doit être dit entre nous, nous ne sommes pas capables d'exploiter ce qui est sous la main, ce que nous avons, que les autres recherchent comme pas possible. Il y a des gens, Jean-Marc, quand ils sont dans leur pays, ils prient Dieu comme vous n'avez pas idée, comme les Congolais prient pour aller en Europe. Il y a des étrangers qui sont dans leur pays, qui prient comme vous n'avez pas idée pour venir au Congo, ne plus que pour 2 jours. Ne plus que pour 2 jours. Et lorsqu'ils arrivent au Congo, c'est le paradis. Mais alors, nous-mêmes, on ne sait pas exploiter ce que les autres exploitent même sous nos yeux. Nous voyons comment les gens arrivent et comment ils se développent sous nos yeux. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'engager ces politiques-là, d'engager ces moyens-là, d'engager ces forces-là pour nous développer et développer les autres, développer l'Afrique. Donc, moi, je crois que la solution, c'est nous ressaisir. On est très, très, très irresponsable, excusez-moi, vis-à-vis du Congo. On n'est pas assez nationaliste vis-à-vis du Congo. Et c'est vraiment décevant. Moi, je suis un homme franc. Quand c'est jaune, c'est jaune. Quand c'est noir, c'est noir. On doit se le dire pour que nous puissions. Les hommes existent, mais il faut aller chercher ces hommes.
Donc on va dire que...
Depuis un temps, bon, ce sont les mêmes choses qu'on fait. Ce sont les mêmes qui font la même chose tous les jours. Entre-temps, le Congo stagne.
Mais quelles sont les pistes, je vais dire, concrètes que vous pouvez suggérer à cette occasion? Par où commencer pour relever la tête?
Par où commencer? Par la tête, justement. Parce que l'impulsion, dans un pays, nous avons des institutions. Je crois que par où commencer, c'est au niveau des institutions. Au niveau des institutions, parce que ce sont celles-là qui sont établies, qui ont des animateurs, qui sont mandatés pour développer la culture congolaise. C'est pas quelqu'un d'autre, Jean-Marc. Les autres sont les activistes de la culture. Les musiciens sont les acteurs dans la culture. Les peintres sont les acteurs. Mais la politique culturelle, ce sont les institutions, papa. Et tant que nous aurons dans nos institutions les gens dont les yeux sont tournés vers l'extérieur, en pensant que notre salut viendra de l'extérieur, en ce moment-là, ça va toujours être difficile. Nous devons changer beaucoup de paradigmes qui sont là. Nous devons changer tous les paradigmes qui ont été mis en place, qui ne nous ont pas avancé. Je prends l'exemple aujourd'hui. En 1970, un franc congolais valait 2 dollars. Cette terre qui a fait que nous produisions, nous soyons le premier producteur de la plupart des produits vivriers, elle est toujours là. C'est toujours les 2 345 000 km² qui sont là, qu'on ne nous a pas encore arrachés, même si on parle tout le temps de balkanisation. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont posé des paradigmes, des autorités qui ont posé des paradigmes comme quoi l'importation est beaucoup plus efficiente pour notre pays que de produire localement. Voilà, par exemple, voilà ces genres de paradigmes qui ne nous avanceront jamais parce que notre vocation, c'est produire. Nous sommes un pays de producteurs. Nous devons être en mesure de produire, y compris dans la culture. Mais tant que le paradigme est détourné, est extraverti, tout on regarde de l'extérieur. Aujourd'hui, le Congolais ne pense même plus qu'il est capable de produire chez lui. Ça, c'est très grave. Donc, aujourd'hui, c'est comme si on n'a plus la terre. C'est comme si notre terre n'est plus productive. C'est comme si on n'a même plus un seul franc que nous pourrions mettre sous notre terre pour produire quelque chose. Voici un pays qui ne peut même pas acheter un bateau de pêche industriel, papa. Mais on attend, aujourd'hui, on parle de tout ce dont vous entendez, une polémique honteuse sur ces problèmes de baisse des prix. Vous pensez que si nous avions produit nos poissons ici, dans la structure des prix, on mettrait tous les éléments qu'on a mis là afin que l'impiode arrive à Kinshasa? On ne mettrait pas tout ça si on avait produit localement. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, Jean-Marc, okay, pour vous montrer que nous sommes trop extravertis. Revenons au Congo, ramenons l'âme congolaise au Congo. Le salut, notre salut, c'est au Congo, avec les Congolais, pour les Congolais.
Donc je comprends que vous restez tout de même optimiste, Dieudonné Nkichi Kazadi.
Oui, l'espoir est permis parce que les prérequis sont là. L'espoir est totalement permis, papa. Okay. Parce que quand vous regardez ce que nous avons comme potentiel, c'est un prérequis qui ne demande que des petites décisions dans tous les domaines. Et parfois des décisions courageuses. Le problème, c'est qu'on a des autorités parfois incapables de prendre des décisions courageuses. Parce que parfois ils ont peur, on va dire. Parce que parfois ils ont peur, on va m'enlever. Bon, voilà le problème.
Peut-être les gens voudront approfondir les débats avec vous. Comment vous atteindrez?
Pour ceux qui voudraient bien qu'on discute ensemble, c'est le 081-396-35-35. 081-396-35-35. J'ai aussi une adresse email. C'est D comme Dieu donné, Tichy 2018@gmail.com.
C'est ici que prend fin ces numéros du magazine Identité culturelle avec nos invités, les professeurs André Yokalier de l'INA et Dieudonné Nkichi Kazadi de l'Université de Kinshasa. Nous avons analysé la production artistique congolaise depuis l'indépendance à ces jours. Une production abondante sur tous les plans. Elle a pourtant besoin d'un appui pour plus de rayonnement. Merci à Jean-Marc Matouaki pour sa précieuse contribution et sa supervision de ces magazines. Je suis Rosalie Zawadi. Je vous dis merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur ces ondes de la Radio de la Paix. Prenez soin de vous.